Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 15 et le titre sera « Nous avons la faillite de l'homme ». Ce sera la première partie. Avant de pouvoir suivre cette vérité dans la vie chrétienne, il nous faut considérer cet intervalle tragique, comme nous pouvons le nommer, c'est-à-dire la faillite de l'homme. Nous connaissons l'histoire, nous savons comment elle est écrite et comment elle est exprimée. Si nous avons de la peine à l'accepter sous la forme dont nous en avons le récit, c'est-à-dire soit dans la manière dont la tentation fut présentée à Adam en ce qui concerne l'arbre, le fruit, etc., soit en voyant en tout cela un symbolisme, nous serions aidés dans de telles difficultés en nous souvenant que derrière toute forme de présentation, il y a des principes spirituels, et ce sont là les choses essentielles et vitales. C'est la signification des choses qui importent et pas tellement la forme sous laquelle elles sont présentées. Nous aimerions aller derrière la faillite de l'homme. La Bible nous dit qu'elle a été la source de cette chute. Et ici encore, et merveilleusement, nous sommes ramenés tout en arrière, oui, avant la création. Le voile est tiré et il nous est montré quelque chose qui arriva en dehors de ce monde, quelque part où ces desseins de Dieu avaient été connus, ces desseins concernant son Fils et l'établissement de son Fils comme Seigneur de la création, comme héritier de toutes choses. Ce dessein avait été connu parmi les anges, dont on peut dire dans la hiérarchie du ciel déjà. Et c'est là que se trouvait quelques-uns le plus grand de tous les êtres créés, oui, c'est-à-dire le Fils du matin, qui a appris cette intention divine. Comment a-t-il pu savoir presque tout? C'est là le mystère. Je dis presque tout, mais pas tout. Comment, dans ce royaume, l'iniquité peut-elle pénétrer? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas concevoir l'origine du péché, mais ce qui nous est dit, c'est que l'iniquité parvint à pénétrer en lui un jour. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. L'orgueil se trouva donc un jour, tout à coup, dans son cœur. Or, l'orgueil produit immédiatement la jalousie, n'est-ce pas? Il se manifeste toujours et immédiatement par la jalousie, la rivalité. L'orgueil ne peut même pas supporter quelqu'un qui serait égal, presque pareil en intelligence ou d'autres aspects de notre vie. L'orgueil poussera toujours à essayer de faire beaucoup mieux dans n'importe quel domaine que ce soit. Et c'est ainsi que toute la jalousie de toute la rivalité ont pu jaillir dans ce cœur. Il nous est dit dans les Saintes Écritures que cet être avait déclaré « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur les hauteurs des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 14. Donc, il est devenu maladivement jaloux de l'héritier de Dieu et son rival pour son établissement. Le ciel fut donc déchiré. Mais il fut rejeté. Il fut rejeté au sein de la prospérité de ton commerce, nous est-il dit dans Ézéchiel chapitre 28. Oui, au sein de la prospérité de ton commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu es devenu coupable. Je te précipiterai donc de la montagne de Dieu. Je te ferai périr au chérubin protecteur, au milieu des pierres, au feu éclatant. Ton cœur s'est enorgueilli de la beauté de ton opulence. Tout cela t'a fait perdre la sagesse. Je vais te précipiter à terre et te donner en spectacle au roi afin qu'il contemple ta ruine. Tu as profané tes sanctuaires par l'excès de tes iniquités et par l'injustice de tes entreprises. Je ferai donc surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres sur la terre en présence de tous ceux qui te regardent. On a dit Ézéchiel chapitre 28, versets 16 à 18. Il nous est dit qu'il fut rejeté de son rang, car il avait le plus haut rang qui peut s'imaginer au ciel. Il fut donc rejeté de son rang avec tous ceux qui étaient entrés avec lui dans cette terrible conspiration contre le Fils de Dieu. Ces anges qui n'ont pas gardé leur rang et qui ont abandonné leur propre demeure. Jude, verset 6, ils furent donc tous rejetés. Nous voyons ensuite l'apparition de cet être sous un beau déguisement, non pas comme les peintres et les caricaturistes et d'autres artistes l'ont représenté, non pas avec des cornes et avec une queue et peut-être encore une fourche dans la main, mais sous un beau déguisement afin de mieux pouvoir séduire. Nous le voyons entrer dans le domaine de la création de Dieu. Nous le voyons s'approcher de l'homme et de sa compagne surtout. Quelle sera maintenant sa méthode? Nous ne comprendrons jamais, jamais totalement, la signification de la vie chrétienne avant d'avoir saisi ces choses-là. Quelle fut sa méthode? Quel fut le point central sur lequel l'ennemi dirigea sa grande attaque sur l'homme? Cet homme que Dieu avait créé pour qu'il soit en communion avec son Fils dans le grand dessein des âges. Le point sur lequel se concentra l'ennemi, ce fut le moi, l'ego, le moi, l'ego de l'homme. Je doute que l'homme ait eu conscience de son moi avant que Satan ne l'ait touché sur ce point en disant « Mais Dieu, a-t-il vraiment dit ?» Genèse chapitre 3, verset 1. L'insinuation était « Dieu retient quelque chose que tu pourrais avoir. » Oui, il te limite. Attention, Dieu sait que si tu fais cette chose qu'il t'a totalement défendue, tu auras en toi-même la racine de la question. Tu auras en toi-même la capacité et la faculté de tout connaître. Connaître, oui, connaître absolument tout. Mais pour le moment, sous cette rigueur de Dieu, tu dois dépendre entièrement de lui. Tu dois le consulter, tu dois t'en remettre à lui et tout lui rapporter, tu dois recevoir tout de lui. Alors que tout le temps, tu peux avoir tout en toi-même. Et Dieu le sait très bien. Tu le vois. Vois-tu, Dieu te prive de quelque chose que tu pourrais avoir. Et tu es ainsi un être moindre que ce que tu pourrais être. Rends-toi compte. Dieu ne teste donc pas tellement les choses en ta faveur. Il ne t'est pas tellement favorable, soyons sincères, ni à toi, ni à tes intérêts. Tout cela, c'était pour mieux, en quelque sorte, de diffamer, il faut bien le dire, de diffamer Dieu. Mais le point soulevé était celui-ci. Toi, oui, toi, tu peux être quelque chose d'extraordinaire. Tu peux faire quelque chose, tu peux être dans la connaissance de toute chose. C'était la concentration sur soi-même, sur les intérêts personnels, sur la réalisation du soi, de l'ego, et toute l'armée des aspects du moi. Le moi se réveilla, ce moi qui avait fait tomber l'ennemi de son premier état. Moi, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Moi, je serai semblable au Très-Haut. Éveillez le moi dans l'homme, de sorte que l'homme, au lieu d'avoir son centre en Dieu comme ça devrait être, de recevoir tout de Dieu le Père, aspire à avoir son propre centre en lui-même, que au lieu d'être concentré sur Dieu, il se concentre sur lui-même. C'était là le point visé par l'ennemi. Et l'homme fut entraîné dans ce même orgueil qui avait causé la chute de Satan. Il fut conduit dans le même acte d'indépendance qui n'est qu'une prétention à la liberté personnelle à l'égard de Dieu. Quant aux résultats, eh bien, nous les connaissons. À mesure que ce monde vieillit, que grandit le développement de cette race, plus terrible aussi est la manifestation de cette chose originelle. Nous avons donc là l'image de l'homme qui essaye de se passer de Dieu, de l'homme qui dit pouvoir se passer totalement de Dieu. L'homme cherche donc à se réaliser lui-même, à se satisfaire lui-même et à tirer tout, absolument tout, à soi-même. Il cherche donc à être en lui-même le centre de tout, non seulement individuellement, mais collectivement. C'est le cours des choses, c'est l'histoire. Et quels en sont les résultats? Regardons un peu le monde, toute la souffrance terrible, oui terrible, toute la misère, toute l'horreur. Nous n'aurions jamais imaginé si ce n'était devenu une actualité dans ces dernières années, ce que l'homme est capable de faire, et tout cela à cause de sa rupture avec Dieu. Nous ne nous arrêterons pas là-dessus, c'est trop horrible. Mais si nous demandons pourquoi, oui, pourquoi toute cette souffrance et cette misère et cette détresse continuent-elles dans ce monde? Sûrement la réponse sera celle-ci. Si Dieu détournait de l'homme les conséquences de cet acte d'orgueil et cet acte de désobéissance, d'indépendance et de complicité avec son grand ennemi, cela permettrait à l'homme de continuer dans sa voie d'indépendance. Tout cela, c'est la manière dont Dieu dit, la manière dont il est obligé de dire. C'est une chose terrible que d'être sans Dieu. C'est une chose terrible d'être dans un état de rupture avec Dieu. Supposons maintenant que nous entrions dans la vie chrétienne. Cela n'enlèvera pas toute la misère et la souffrance qui sont dans la création, et cela ne nous enlèvera pas la souffrance à nous-mêmes. Mais il y aura une différence, ah oui, c'est la différence énorme qu'il y a entre celui qui est en dehors de Christ et celui qui est en Christ. C'est celle-ci la différence. Tous les deux souffrent, c'est clair. Mais tandis que l'un souffre jusqu'au désespoir et au découragement, il y a dans les souffrances de l'autre, il y a là la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui se sert de toutes ces expériences et cela pour que le chrétien devienne enfin à l'image de Dieu. Les autres souffrent sans aucun espoir. Ils meurent sans aucun espoir. Mais les souffrances d'un chrétien, ils ont pour but de le rendre semblable à son Seigneur. C'est une chose merveilleuse que de voir l'image de Christ paraître dans les siens à travers leurs souffrances. Deuxièmement, nous avons l'intercation du Seigneur Jésus. Plutôt, nous avons l'incarnation, faut dire cela correctement. Il s'est incarné, le Seigneur. Donc, nous arrivons maintenant à quelque chose de merveilleux. Nous arrivons à la phase suivante. L'incarnation de notre Seigneur Jésus, c'est précisément à ce point. Ça, c'est l'incarnation que tout ce qui avait été arrêté pour lui, tout le dessein divin et la conception du Fils de Dieu dans cet univers, toute l'activité créatrice qui s'est faite par lui et en lui et pour lui, et toute la signification de la création de l'homme, telle que nous avons essayé de la montrer, tout est repris, absolument repris de manière définitive pour être réalisé. Alléluia. Alors, cette incarnation, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, c'est quelque chose de très beau, beaucoup plus grand que ce que aucun de nous n'avons jamais pu apprécier. La sainte parole de Dieu donne beaucoup d'importance à cette venue dans le monde. Nous savons qu'en une certaine saison de l'année, nous ne faisons que parler de la naissance de Jésus, mais la sainte parole de Dieu, tandis qu'elle emploie cette phrase « Jésus étant né à Bethléem », elle nous dit beaucoup, beaucoup plus de choses au sujet de sa venue. Ce n'était pas le commencement de Jésus, c'était la venue de Jésus. Jésus étant dans cette forme parfaite de son existence, éternelle avec Dieu, il avait pris une décision à ce sujet. Il avait pris la décision délibérée de venir. Le fait qu'il est venu sous la forme d'un petit enfant, cela a sa propre signification particulière. Nous ne pouvons pas nous arrêter à tous ces détails de cela, mais c'était une venue. Et ce que la Sainte Parole nous dit avant tout au sujet de cette venue, c'est qu'elle était de la part de Jésus un immense renoncement. Écoutons encore. Lui, qui étant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Et il y a une claire implication dans cette phrase de sa grande prière. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je répète, Jésus a dit, et vous pouvez vérifier Saint Jean chapitre 17 verset 5, et je prends la version de Darby, mais toutes les autres versions disent la même chose. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde fût. Johannes, Saint Jean, chapitre 17, verset 5. Il a quitté cette gloire. Il l'a laissée derrière lui. C'était là le renoncement immense du Fils de Dieu. Il renonça à sa gloire céleste éternelle, à sa position d'égalité avec Dieu le Père, pour descendre à quoi? Pour descendre à la servitude. Le mot devient serviteur. Oui, plus justement, il est devenu pour nous, pour toi et pour moi, un esclave, sous la forme d'un esclave. Vous et moi, nous ne pouvons pas saisir tout ce qu'il y a en tout cela, parce que nous ne pouvons pas saisir ce que signifiait pour lui d'être égal à Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il était, ni tout ce qu'il avait dans l'éternité passée. Nous connaissons tellement peu de tout cela, et nous le comprendrons encore moins. Mais c'est le fait. Il a renoncé à tout cela. Et ceci pour venir ici-bas, pour venir dans son incarnation, non pas comme un maître, mais comme un esclave. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu non pour être servi, mais pour servir. Saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Saint Luc, chapitre 22, verset 27. Et ayant pris un linge, il s'en enveloppa et ensuite il remplit d'eau le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Saint Jean, chapitre 13, versets 4 à 5. Ça, c'était le travail du serviteur, le travail de l'esclave. La partie suivante de cette phrase qui nous décrit ce cycle de la gloire à la gloire, et ayant paru comme un simple homme, ceci est précisément lié au trait central et à la signification essentielle de l'incarnation, c'est-à-dire à tout ce que signifie le fait que tout a été accompli par l'homme devenu homme pour l'homme. Il y avait eu de nombreuses théophanies dans les temps de l'Ancien Testament, donc des apparitions, donc des manifestations de Dieu à l'homme par des apparitions actuelles. Oui, ces apparitions étaient celles de la seconde personne de la Trinité. Il n'y a pas lieu de discuter ici de cette question-là. Mais l'incarnation est quelque chose de totalement différent. Et son point essentiel, c'est que la grande œuvre de la rédemption n'a pas été confié à des anges, ça aurait pu. Mais, comme le dit un cantique, au généreux amour, que celui qui a vaincu l'ennemi dans l'homme est pour l'homme, et de subir pour l'homme la double agonie dans l'homme. Ce fut donc comme homme qu'il a pris pour l'homme la responsabilité de cet état de choses et la responsabilité de recouvrer ce qui avait été perdu et de réinstaller ce qui avait été détruit, la responsabilité de la rédemption de l'homme et de la création. C'est pour cela qu'il s'est incarné, pour aller ensuite tout droit à la croix. Il n'avait pas d'illusion à cet égard. C'est pour cela qu'il était venu. L'un de ses grands impératifs, c'était toujours et était toujours lié à la croix. Il faut, est-il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré et qu'il soit crucifié. Saint Luc, chapitre 24, verset 7. Cet impératif était dans son cœur. Il gouvernait et dépassait toutes les autres choses. Il le savait. Et c'est pourquoi il répudia et rejeta l'offre des royaumes de ce monde que lui faisait à bon marché le diable, parce qu'il était venu non pour les avoir tels qu'ils étaient, mais pour les avoir comme Dieu les avait toujours voulu, et cela ne pouvait être que par le chemin de la croix. La croix était ainsi la grande répudiation du monde en ce qu'il était et en ce qu'il est, la répudiation de l'homme en ce qu'il était devenu, celui que Dieu ne pouvait pas accepter dans le cœur duquel se trouvait cet orgueil. Car de manière représentative, dans le jugement et de la mort de Jésus-Christ, Dieu déclarait en ce qui concerne toute la race, « J'en ai fini avec cela », et il en détournait sa face. Le cœur du Fils était brisé lorsqu'il s'écria « Tu m'as abandonné ». Pourquoi ? Parce qu'il était là comme le représentant de l'homme, le représentant du monde tel qu'il était, et il devait mourir comme tel. Il a goûté la mort pour tous, selon Hébreux chapitre 2, verset 9. Cela signifiait expérimenter, oui, c'était d'expérimenter l'abandon de Dieu, la répudiation et la porte du ciel qui est maintenant totalement fermée, le nom éternel de Dieu sur cette création déchue. C'est par ce moyen qu'il a rejeté l'homme, qu'il a racheté la création, et que dans sa résurrection et dans son ascension à la droite de Dieu, il a réinstallé l'homme de manière représentative à la place que Dieu avait toujours voulu pour l'homme. Ce n'est pas simplement une action isolée de la part de Jésus-Christ, c'est une action qui embrasse tout le temps. Il est celui qui représente tous les hommes et ce qui lui arrive à lui. C'est ce qui est dans l'intention de Dieu pour tous les hommes. Avant que l'homme soit en Christ, il est répudié par Dieu. Essayez de bien comprendre cela. Il n'y a pas d'autre chemin. Personne ne vient au Père que par moi, nous est-il dit dans les Saintes Écritures, Saint Jean, chapitre 4, 14, verset 6. Mais en Christ, l'héritage qui avait été perdu est recouvré et retrouvé. En Christ, qui est personnellement à la droite de Dieu comme son représentant, l'homme est réintégré. Christ est là. Il est là comme le gage de ce que nous serons et de la place où nous serons par la grâce de Dieu notre Père. Mais notons bien ceci, le Christ ressuscité n'est plus le Christ fait péché à notre place. C'est celui en qui le péché a été effacé. Et en lui, c'est une nouvelle création qui est établie, bien que ce soit encore l'homme. Tout cela est donc le cadre de la vie chrétienne. C'est là l'arrière-plan d'un chrétien. N'est-ce pas immense tout cela? Nous cherchons des mots pour essayer de le présenter, c'est quelque chose de si grand, oui, de très grand. Tout ce que je puis espérer, c'est qu'il nous en reste une impression. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le définir, je ne peux pas le présenter, je ne peux pas le faire comprendre, mais tout ceci, bien que si pauvre en expression, devrait sûrement, oui, sûrement, faire une impression sur chacun de nous. Il nous faudrait au moins saisir ceci. C'est qu'un chrétien est établi sur un arrière-plan éternel. C'est une chose merveilleuse que de se convertir et de devenir un chrétien. C'est une bénédiction que d'être sauvé. Mais notre conception et notre expérience de la vie chrétienne sont tellement petites si nous les comparons à la pensée de Dieu. Nous avons besoin de saisir les dimensions éternelles de la signification de Jésus-Christ pour voir la base d'une vie chrétienne. Le christianisme ne commence pas au moment où nous acceptons Christ. Lorsque nous acceptons Christ, nous sommes ramenés là, là, dans l'éternité de la pensée de Dieu pour l'homme. Nous entrons dans quelque chose qui a été de toute éternité dans l'intention de Dieu et comme nous le verrons plus loin, qui est lié à une réalisation inexprimable ou inexprimablement merveilleuse dans les âges à venir. Devenir un enfant de Dieu, naître de nouveau, de quelle manière que nous définissions cette expression, c'est entrer directement dans quelque chose qui, avant tout, n'appartient pas au temps, qui est de l'éternité, ça c'est important. Ce n'est pas simplement cette petite vie ici-bas sur la terre. Elle est des cieux. Elle est universelle dans sa signification. C'est une chose merveilleuse qui dépasse tout pouvoir de compréhension que d'être un chrétien. Si nous pouvions seulement avoir une conception du prix de notre salut, du prix de la rédemption, du prix qui a dû être payé pour recouvrer l'héritage perdu, le prix qu'il signifia pour Dieu, le prix pour le Fils de Dieu, les profondeurs terribles de cette croix. Eh bien, si nous pouvions en avoir seulement une petite idée, nous verrions que ce n'est pas une petite chose que d'être un chrétien. C'est quelque chose d'immense. Ce que nous venons de dire n'est pas en dehors de la sainte parole de Dieu. Nous sommes restés strictement en ligne avec le Saint-Livre. Nous n'avons pas passé de passage en passage. Mais il y a, dans ce que nous venons de dire, une vaste part des Écritures saintes. Tout ce que nous avons vu est bien plus que cela. Tout cela se trouve dans la sainte parole de Dieu. Et la chose importante, c'est que tout ce que nous avons vu peut être mis à l'épreuve. Cela peut être vrai dans notre expérience. Et cela dès maintenant, aujourd'hui même, dans cette vie actuelle. Ceci, précisément, le côté merveilleux, c'est précisément le côté merveilleux de tout cela. Un enfant de Dieu, réellement né d'en haut, le sait très bien dans son être intérieur. Et cela est vrai. C'est pourquoi j'ai une existence, j'en ai maintenant trouvé l'explication, et beaucoup plus encore. Maintenant, si cela est vrai, si tout cela est ce que signifie être en Christ, et nous mettons ceci par voie d'argument, quel appel immense à être un chrétien et quelle chose terrible ce serait de n'être pas en Christ. Quelle chose immense ce sera, non seulement dans cette vie, mais bien plus, infiniment plus, dans les âges à venir, que d'être en Christ. Si quelqu'un de ceux qui écoutent ce CD, ce message, n'était pas encore en Christ, ceci est pour vous un appel. Il ne s'agit pas simplement pour vous des convictions ou de la foi de votre père ou de votre grand-mère. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous appelez christianisme, ni de votre propre conception d'un chrétien qui peut être entièrement faux et erroné, ou du moins inadéquate. Mais il s'agit d'une chose vaste, d'une chose immense, que Dieu vous aide, chers amis, par cette contemplation de la portée de la vie chrétienne à chercher, si vous ne l'avez pas encore fait, à embrasser le don de Dieu. Et pour nous qui savons ce que c'est que d'être en Christ, soyons certains de tendre vers tout ce que signifie la vie chrétienne, de ne pas nous contenter d'une petite vie chrétienne, de quelque chose de moindre que toute la plénitude de Dieu pour nous. Et si nous avons déjà beaucoup d'expérience et de connaissances, que tout ce que nous avons vu nous amène à une détermination nouvelle de ne perdre rien de ce qui était l'intention pleine et suprême de Dieu lorsque il nous a saisis en son Fils bien-aimé. Et nous pouvons dire là, amen. Chers amis, ceci a été une étude un peu plus courte que d'habitude, mais il y a une raison à toute chose. Je voudrais maintenant essayer, je dis bien essayer, de vous apporter notre prière pour notre pardon. Je dois vous dire en toute honnêteté, je pense, en disant la vérité humblement, il le faut, je le dois au Seigneur, de vous dire que je ne pourrai jamais faire tout cela par moi-même. Impossible, puisque je dois vous avouer, et je l'ai déjà eu dit, avec un père qui s'est marié 5 fois, 5 marâtres qui m'ont battu, la 3e qui disait que j'étais même pas son chien, qui m'a battu à mort et martyrisé, j'ai dû fuir à l'âge de 13 ans, et j'ai pu faire seulement 4 ans d'école primaire. Donc, probablement, si je ne me trompe pas, 4 à 5 fois moins que la plupart d'entre vous. Donc, ne disons pas de mensonges. Il est clair que je serais totalement incapable de faire ce que je fais, surtout à 86 ans, maintenant, je vais sur les 87, où je devrais déjà être enterré et donc plus parmi vous. Si le Seigneur me donne encore vie, je lui ai promis, je le lui dois, il m'a tiré de la fosse. J'aurais pu, et je dit avec mon humour, atterrir à Sing Sing, à Alcatraz. Et le Seigneur m'a sauvé, m'a changé, a eu pitié de moi. Et c'est l'Esprit Saint qui me guide, qui m'inspire. J'en serai totalement incapable. Donc, ne disons pas de mensonges. Incapable, contrairement à la plupart d'entre vous. Sans l'Esprit Saint, niet. Alors, nous allons prier sincèrement ensemble. Père Céleste, tu dis tout ce que vous donnez hors vous n'est rien pour Jésus-Christ, parce que c'est vous que Jésus-Christ veut, et non pas vos dons. Comme tout le reste ne vous suffirait pas sans le Seigneur, ainsi aucun de vos dons ne peut lui plaire si vous ne vous donnez vous-même. Offrez-vous à lui, donnez-vous pour Dieu tout entier, et votre don lui sera agréable. Il s'est offert tout entier pour vous à son Père. Il vous a donné tout son corps et tout son sang pour nourriture, afin d'être tout à vous et que vous fussiez à jamais tout en lui. Mais si vous demeurez en vous-même, si vous ne vous abandonnez pas sans réserve à sa volonté, votre don n'est pas entier et nous ne serons pas unis parfaitement. L'offre volontaire de vous-même entre les mains de Dieu doit donc précéder toutes vos œuvres si vous voulez acquérir la grâce et la liberté. S'il en est si peu qui soient éclairés de sa lumière et qui jouissent de la liberté intérieure, c'est qu'ils ne savent pas se renoncer entièrement eux-mêmes. Il l'a dit, et sa parole est immuable. Si quelqu'un ne renonce pas à tout, il ne peut être mon disciple. Si donc vous voulez être son disciple, offrez-vous à lui avec toutes vos affections. Seigneur, à qui tout appartient dans le ciel et sur la terre, je veux aussi me donner à toi par une offrande volontaire. Je veux être à toi pour toujours. Dans la simplicité de mon cœur, je m'offre à toi aujourd'hui, mon Dieu, pour te servir à jamais, pour t'obéir, pour m'offrir sans cesse à ta gloire. Reçois-moi avec l'offrande sainte de ton précieux corps que je t'offre aujourd'hui en présence des anges qui assistent invisiblement à ce sacrifice et fais qu'il porte des fruits de salut pour moi et pour ton peuple. Toutes les fautes et tous les crimes que j'ai commis devant toi et devant tes saints anges depuis le jour où j'ai pu commencer à pécher jusqu'à ce moment, je te les offre, ô Seigneur. Oui, sur ton autel de propitiation, je t'offre tout cela afin que tu les consumes, par le feu de ton amour, que tu effaces toutes les taches dont ils ont souillé ma conscience, et qu'après l'avoir purifié, tu me rends ta grâce que mes péchés m'avaient fait perdre, me les pardonnant tous pleinement et me recevant dans ta miséricorde au baiser de ta paix. Que puis-je faire pour expier mes péchés? que de les confesser humblement, avec une amère douleur, et d'implorer sans cesse ta clémence. Je t'en conjure, exauce-moi, sois-moi propice quand je me présente devant toi, mon Dieu. J'ai une vive horreur de tous mes péchés et je suis résolu à ne plus les commettre. Ils m'affligent profondément et toute ma vie je ne cesserai de m'en affliger, prêt à demander sincèrement pardon. Pardonne-les-moi, Seigneur. Pardonne-les-moi pour la gloire de ton saint nom. Sauve mon âme et mon esprit que tu as racheté au prix de ton sang. Voilà que je m'abandonne à ta miséricorde. Je me remets entre tes mains. Traite-moi selon ta bonté et non selon ma malice et mon iniquité. Je t'offre aussi tout ce qu'il y a de positif en moi, quelques imparfaits qu'ils soient, afin que l'épurant, le sanctifiant, le perfectionnant sans cesse, tu le rends plus digne de toi, plus agréable à tes yeux, et que tu me conduis à une heureuse fin, moi, le plus inutile, le plus languissant et le dernier des hommes. Je t'offre encore tous les pieux désirs des âmes fidèles, les besoins de tous ceux qui me sont chers, de ceux qui m'ont fait, ou à d'autres, quelques biens pour l'amour de toi, de ceux qui ont demandé ou désiré que j'offre des prières pour eux et pour les leurs, que tous sentent le secours de ta grâce, la puissance de ta consolation. Protège-les dans les périls, délivre-les de leurs peines et qu'affranchis de tous les maux, ils te rendent plein de joie, d'éclatantes actions de grâce. Je t'offre enfin des supplications de pardon, principalement pour ceux qui m'ont offensé en quelque chose, qui m'ont contristé, qui m'ont blâmé, qui m'ont fait quelque tort ou quelque peine, et pour tous ceux aussi que j'ai moi-même affligés, que j'ai blessés, que j'ai troublés, que j'ai même scandalisés, je m'en rappelle, le sachant ou sans le savoir, afin que tu nous pardonnes à tous nos péchés et nos offenses mutuelles. Ôte de nos cœurs, ô mon Dieu, le soupçon, l'aigreur, la colère, tout ce qui divise, tout ce qui peut altérer la charité et diminuer l'amour fraternel. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de ces pauvres qui implorent ta grâce, ta miséricorde, et fais que nous soyons dignes de jouir ici-bas de tes dons et d'arriver à l'éternelle vie. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt énorme que certains d'entre vous portent à ces études. Et vous savez que vous pouvez, à tout instant, réécouter, soit entièrement, une de ces études, ou partiellement, et grandir comme je l'ai désiré durant toute ma vie, de grandir dans les connaissances des mystères de notre Dieu et de notre Sauveur bien-aimé. Et comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes si peu de choses. Moi, je me considère absolument comme étant rien. Pensez donc. Et je dois tout, absolument tout, à mon Sauveur et Seigneur. Tout. Et je le lui dis parfois, je veux te servir jusqu'au dernier souffle. Et même, je lui dis parfois, je ne sais pas si j'ai raison, je sais tellement peu de choses. J'aimerais même le servir au-delà de ma vie. Mais, encore une fois, je suis un ignorant qui doit tout à son Sauveur. Et sans l'Esprit Saint, c'est inutile. Je ne pourrai jamais, jamais faire ce que je fais. À bientôt, à nouveau, soyez bénis. Et si je vous dis que je vous aime, oui, je vous aime, mais cela n'est rien, rien à côté du Seigneur qui, lui, vous aime d'un amour incomparable. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de ces études. Au revoir, mes très chers amis.